journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole, votre émission. Pour intervenir en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui dans le JDA, le scandale Windrush au Royaume-Uni. Alors cette affaire éclabousse depuis plusieurs semaines le gouvernement outre-Manche. Elle a même conduit à la démission de la ministre de l'Intérieur qui avait menti devant une commission parlementaire. Alors, que signifie Windrush? La génération Windrush, ce sont plusieurs centaines de milliers d'immigrés qui sont venus au Royaume-Uni entre 1948 et 1971. Et depuis 2012, le gouvernement britannique a décidé de rendre la vie difficile aux immigrés illégaux. Et ces gens venus avant 1971 ont du mal à prouver la légalité de leur situation. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants, mais que pensez-vous de ce scandale? Alors qu'en France, certains ont fait l'expérience du boumidom, que dit ce scandale d'émigration caribéenne? Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 00. Avant de recueillir vos commentaires en direct, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour entendre vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour les Africains de France, mes frères et sœurs, bonjour. Je disais que j'avais laissé un message depuis le 1er mai. Les jeunes qui étaient vendus en Libye sont maintenant rentrés à Paris. Ils sont dans les bouches de métro. Pour les Africains qui ont le moyen, avec 100 euros, on peut préparer tous les jours. Les Restos du Cœur n'ont pas été créés par une baguette magique. Pour ceux qui ont le moyen, j'ai appelé, personne ne m'a rappelé. S'il vous plaît, faites parler vos cœurs. Créons un restaurant pour ces jeunes.
Cher ami du JDA et Madame Hartmann, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est suite à la nouvelle loi pour l'immigration et les demandeurs d'asile. Je ne peux pas comprendre comment on peut leur laisser 15 jours pour faire recours à la CNDA pour les gens qui ont un refus. Je déplore vraiment cette hypocrisie. Si la France ne veut plus recevoir les gens, je pense qu'il faut qu'ils aient le courage de dire carrément qu'on ne veut plus recevoir les gens au lieu de compliquer toujours les lois n'importe comment. Parce que franchement, 15 jours, les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement et tout, comment ils vont s'y prendre? Bien des choses à tout le monde. J'espère que Mme Hartmann va faire une émission bientôt pour essayer de bien éclaircir ces choses et débattre. Dieudonné Kasongo, bien des choses à tout le monde et bonne chance. Ciao, ciao.
Bonjour, amis JDA. Je suis centrafricain. J'appelle avec beaucoup d'amertume, beaucoup de haine dans mon cœur. Je vais demander à mon président, M. Touadéra, êtes-vous vraiment le président de ce pays? On vous a élu parce que vous avez des promesses. Pourquoi, jusqu'à plus d'un an aujourd'hui, il y a encore le groupe armé à Bangui? Vous trouvez normal qu'il y ait un État, dans un pays, et que vous êtes président, vous fiez seulement à votre bien, vous restez dans votre coin, dans votre belle pièce, mais et les peuples centrafricains qui meurent jour. Est-ce que vous, en fermant les yeux, vous voyez la peine et la souffrance des centrafricains? Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé hier à Bangui? On a perdu des sœurs, des frères, et même un homme de Dieu. Vous attendez quoi de désarmer le kilomètre 5, M. Touadéra? Vous attendez quoi de désarmer le kilomètre 5? Si vous êtes incapable, quittez le pouvoir. Quittez le pouvoir. Laissez les Centrafricains dans leur souffrance. On a mal au cœur. On va pleurer. Merci, M. Touadéra. Merci avec tes groupes armés que tu gardes au kilomètre 5. Merci.
Ma très chère Hartmann, bonjour. Je salue le discours responsable et conciliant du président de la République Alassane Ouattara lors de la fête du 1er mai. Le président a demandé à tous les exilés de rentrer en Côte d'Ivoire pour que chacun puisse venir et apporter sa pierre à l'édifice. Évidemment, il y a certains exilés qui ont marié des belles femmes ghanéennes au Ghana. Donc, ils ont créé un second foyer. Donc, ceux-là, on ne peut pas les obliger de rentrer. Moi, je m'inscris en faux contre ceux qui disent que oui, le président de la République ne veut pas de la réconciliation. C'est archi faux. Le président Alassane Ouattara ne cesse pas de faire appel à ses compatriotes qui sont exilés. Rentrez en Côte d'Ivoire pour bâtir la nation. Idriss, bonne journée.
Oui, bonjour, Africa numéro 1. J'ai lancé cet appel aux Congolais ou aux Africains. J'ai appris avec la radio Africa numéro 1 l'arrivée de Mme Bensouda Fatou de la CPI en République démocratique du Congo. Je pense que si cette dame aujourd'hui fait ses déplacements pour arriver là-bas, c'est pour essayer de voir tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de choses, il y a la corruption, il y a de découvertes de fausses communes. Et toutes ces choses-là ne peuvent pas passer comme ça dans un monde, un grand pays comme la République démocratique du Congo. Donc je pense que cette visite de cette dame va susciter beaucoup de choses. Et je sais que dans les jours à venir, je pense qu'il y aura des gens qui vont tomber. Il y aura beaucoup de têtes qui vont être invitées à ces pays. Merci Africa numéro 1, merci à tous les Congolais. Bye bye.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Madame Stéphanie. Je voulais vous demander si l'ex-présidente Joyce Banda de la Malawi a-t-elle un lien de parenté avec le premier président de Malawi, le docteur Hastings Kamuzu Banda, qui fut le premier président à avoir établi des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Certains de ses collègues africains lui ont reproché. Il les a dit qu'on choisit pas ses voisins. Malgré lui, il était obligé d'avoir de bonnes relations avec les pays de l'époque qui étaient sous domination coloniale, tels par exemple la Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe de l'époque de Ian Smith, de l'Afrique du Sud, de l'apartheid avec le président Walter Pikbota, de la Mozambique sous la domination coloniale des Portugais. Telle la question que je vous pose, a-t-elle un lien de parenté, Madame Joyce Banda, ou est-ce un simple homonymie? Je vous remercie.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci particulièrement à Ousmane qui nous soumet régulièrement des questions plutôt intéressantes et plutôt bien formulées. L'occasion à chaque fois de nous donner à entendre un morceau de l'histoire récente ou plus passée. La question d'Ousmane, c'était donc, est-ce que Joyce Banda a un lien de parenté avec l'un des premiers présidents du Malawi qui avait eu des relations diplomatiques avec le régime d'apartheid d'Afrique du Sud? Il semblerait que non, mon cher Ousmane. Ce n'est que de l'homonymie. Une petite information avant de parler de ce scandale Windrush au Royaume-Uni et scandale lié aux politiques migratoires des pays européens. Une annonce concernant une conférence de presse, une conférence tout court même, qui aura lieu demain, vendredi 4 mai, à partir de 17h à l'hôtel Concorde Montparnasse. Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques comoriens et le gouverneur d'Anjouan, Dr Salami Abdou, organisent une conférence pour faire part des derniers événements aux Comores. Arrestation arbitraire, torture des élus, suspension de la Cour constitutionnelle, je lis le communiqué bien sûr, convocation d'un référendum anticonstitutionnel, des dislocations de l'Union des Comores. C'est vrai que le président Azali Assoumani a annoncé la tenue d'un référendum et qu'il évoquait éventuellement mettre fin à ce système de présidence tournante, POP aux Comores. On aura peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, si cela vous intéresse, il y a une conférence demain, le 4 mai, 17h, Hôtel Concorde Montparnasse. Vendredi 4 mai, 17h, Hôtel Concorde Montparnasse sur les Comores. Aujourd'hui, je vous le disais donc, on va parler du scandale Windrush au Royaume-Uni. Cette affaire éclabousse hein, depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Hein, je sais, ce Guardian qui a dévoilé cette affaire fin décembre 2017. Cette affaire a même conduit à la démission de la ministre de l'Intérieur. Alors, de quoi s'agit-il ? Plusieurs dizaines de milliers de personnes originaires des Caraïbes sont menacées d'expulsion par le Royaume-Uni. Ceux-là font partie de la génération Windrush. Ce sont des immigrés en provenance des Caraïbes qui ont notamment rejoint le Royaume-Uni entre 1948 et 1971 à la faveur d'un règlement du Commonwealth hein, qui les faisait britanniques. Puis, jusqu'en 1971, il n'y avait pas besoin de visa ou de permis de travail. Mais ensuite, après 1971, ces immigrés originaires des Antilles ont obtenu de la loi d'immigration le pouvoir de rester au Royaume-Uni. Mais depuis, autre temps, autre politique, depuis 2012, le Royaume-Uni fait la chasse aux immigrés illégaux. Et ces immigrés de la génération Windrush peinent à prouver la légalité de leur présence sur le territoire britannique. Alors que pensez-vous de ce scandale ? Que pensez-vous, que dit-il des routes migratoires, notamment en provenance de la Caraïbe ? Et pourquoi les immigrés que les États ont fait venir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe, c'était le cas de cette génération Windrush, sont-ils devenus aujourd'hui indésirable. Nous en parlons tout de suite avec vous. On commence avec Ozana qui va donner un regard depuis Djamena, comme chaque jour, j'ai presque envie de dire, c'est un auditeur fidèle. Ozana, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, est-ce que à Djamena, vous avez entendu parler de cette affaire ?
Oui, justement.
D'accord.
Moi, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment inhumain. Quand on soumet son semblable à une condition de vie difficile, alors, à mon avis, je confie des personnes qui font de telles choses à une condamnation divine, si réellement Dieu existe. Et comme vous savez, le monde, hein, ma compréhension appartient à tout le monde. Donc, je ne vois pas hein, pourquoi on interdit, surtout des personnes qui sont en situation, hein, qui cherchent juste à se réfugier, et on les complique encore la vie. Je pense que c'est vraiment pas anormal. Et je pense que hein, les organisations, surtout internationales, qui œuvrent hein, dans ces sens, doivent vraiment travailler encore davantage pour vraiment aider ces personnes. Et comme vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'Africains qui quittent aujourd'hui, surtout la jeunesse. Et ils sont aussi concernés par ces problèmes. Donc je pense que ça reste un grand travail à faire à ce niveau, pour vraiment amener surtout les dirigeants occidentaux. Et comme vous savez, la France hein, a tout de suite, les députés ont voté une loi contre l'immigration. Alors je pense que
la loi asile et migration, effectivement, dont un auditeur a parlé sur cette antenne il y a quelques temps. Finalement, on a l'impression, Ozana, c'est-à-dire qu'au lendemain, dans les années 50, on a eu besoin des immigrés, on les a fait venir massivement. Et aujourd'hui, ces mêmes immigrés semblent être devenus un problème. Ce n'est pas nouveau, vous me direz, d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est vraiment ingrat, quoi. C'est ingrat du moment où on utilise ces personnes pour vraiment hein, lancer leur développement et puis hein, on les rend les moyens de sein. Je pense que c'est anormal, c'est ingrat. Donc ils doivent encore revoir leur position parce que ces personnes ont juste besoin d'une vie vraiment acceptable, d'un cadre pour vraiment hein, à vivre. Donc les renvoyer ou les soumettre à des conditions de vie difficiles, je pense que c'est anormal, quoi. Donc, le sens de l'humanité, on doit avoir le sens de l'humanité et accepter ces personnes. Ils sont aussi des humains, ils sont aussi de ce monde. Donc, pas question de les renvoyer, bien pas sûr. Question de les torturer, pas question de... Parce que ces gens, parfois, ils n'ont pas d'abri, ils se trouvent hein, au bord des routes avec les
C'est ce que disaient les chercheurs, Ozana, d'ailleurs, les chercheurs britanniques et les ONG qui ont alerté hein, depuis Theresa May sur les dangers de sa politique migratoire. Ces ONG disent effectivement, en plus, ces Britanniques hein, d'origine caribéenne qui vivent dans des conditions les plus difficiles, en tout cas au Royaume-Uni.
Oui, oui. Donc, surtout les autorités ont la responsabilité vraiment d'aider ces personnes Ah, même si ça a été les renvoyer, c'est pas de cette manière. On doit vraiment les mettre d'abord dans des conditions vraiment acceptables avant de chercher à avoir une solution sur ces problèmes.
D'autant même qu'ils n'ont pas... allez-y.
Oui, sinon les brutaliser ou les traiter d'une mauvaise manière, je pense que Dieu même n'est pas d'accord, quoi. On doit vraiment être sympa. Quand, ici chez moi en Afrique, quand on reçoit un étranger, même si on n'est pas content de cet étranger, on l'accueille d'abord, on essaie de le questionner, on voit son problème avant d'agir, quoi. Donc, ils doivent, ces étrangers, ceux-là qui ont contribué aussi au fondement de leur pays, donc ils doivent être reconnaissants à leur égard et ne pas les traiter d'une mauvaise manière. Je pense que ce n'est pas bien, quoi.
C'est très clair. Merci, Hosanna, de nous avoir donné ce point de vue depuis N'Djamena. Et Hosanna qui nous dit, chez nous, un étranger est le bienvenu. On va, je redonne le numéro si vous voulez intervenir. 01 55 07 58 00. Comment en est-on arrivé à la démission de Amber Rudd, la secrétaire d'État à l'intérieur? Eh bien, elle a dû démissionner dimanche pour avoir menti devant une commission d'enquête parlementaire. Elle y avait certifié n'avoir aucun objectif chiffré concernant les mesures de renvoi des immigrés. C'est cette nouvelle politique migratoire qui fait la chasse aux immigrés depuis 2012 au Royaume-Uni. Une affirmation qui a été démentie le 27 avril où une note confidentielle envoyée à la ministre, donc Amber Rudd, avoir fixé un objectif de 12 800 expulsions d'immigrés illégaux en 2017 et 2018. Ce qui est inquiétant aussi dans ce scandale, c'est la réaction du Royaume-Uni, puisque début avril, les représentants de 12 pays des Caraïbes, dont les anciens ressortissants sont concernés par cette affaire, ont demandé à être reçus par Theresa May à l'occasion des conférences de chefs de gouvernement du Commonwealth. Ils se sont vus répondre une fin de non-recevoir. Voilà, donc la première ministre britannique, dans un premier temps, refusé de rencontrer ses dirigeants. Mais face au scandale, le gouvernement britannique finit par présenter le 17 avril ses excuses au chef d'État et en soulignant que la génération Windrush a aidé à construire le pays tel qu'il est aujourd'hui. Une enquête interne devrait être ouverte et le gouvernement britannique a promis aussi une compensation financière pour résoudre les inquiétudes et problèmes dont étaient victimes certains citoyens de la génération Windrush. Rappelons-le, ces citoyens sont britanniques de droit. Leur seul problème, c'est que l'administration britannique n'a rien fait pour leur permettre de justifier cette citoyenneté. La parole aux auditeurs 01 55 07 58 00. On commence avec Diomo de Beng. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs. Je commencerai par remercier, excusez-moi Stéphanie, d'entrée de jeu, Monsieur Idriss qui a laissé un bon message sur les antennes d'Africa numéro 1 concernant l'appel à la réconciliation du président Alassane Ouattara. Merci Idriss une fois de plus. Alors, je dirais pour rentrer dans le sujet, Stéphanie, que ces gens-là, on ne doit même pas appeler ça une immigration, on doit appeler ça des apatrides. Parce que c'est des gens finalement qui se retrouvent sans pays et sans nationalité. Ils sont partis des Caraïbes, ils sont anglais depuis un certain nombre d'années et l'Angleterre ne veut plus les reconnaître, donc ils sont apatrides. En ce moment-là, moi je dirais qu'aujourd'hui l'immigration est devenue la politique économique de tous les pays et de tous les présidents qui doivent être élus. Vous savez, vous êtes sans ignorer aussi tout à l'heure que Mme Theresa May a eu du mal à former un gouvernement. Alors, si elle a formé son gouvernement, c'est qu'il y a eu des accords entre les protagonistes. Et ces accords-là stipulaient peut-être dans un sein qu'il fallait régler ce problème-là d'immigration de ces Caraïbéens qui sont rentrés jusqu'en Angleterre et jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense pour ma part, je ne dirais pas que je cautionne ce que comment il s'appelle le premier auditeur, Hosanna vient de dire, un fidèle auditeur que je salue, l'Afrique au passage, a dit tout, il a tout dit, mais le problème c'est que ce n'est pas ça, c'est pire que ça, c'est pire que l'immigration de l'Afrique ici, parce que ceux-là, ils sont là depuis plus d'une décennie, on peut dire. Ils ont aidé à faire la guerre, ils ont aidé à faire des plantations.
Ils sont arrivés après la guerre, c'est 1948, c'était des Caribéens arrivés, entre 1948 et 1971.
Voilà, et on leur dit aujourd'hui qu'ils ne sont ni français d'où ils viennent, ils ne sont ni anglais de là où ils sont partis. Mais d'où viennent-ils ces gens-là? Quel est leur pays?
Beaucoup, c'est plutôt la Jamaïque, voilà, parce que quand on parlait des représentants des 12 pays de la Caraïbe... qui demandait à être ici, la Jamaïque notamment. Ah, c'est intéressant ce que vous soulignez, Diomo de Beng. On va écouter d'autres auditeurs Diomo de Ben qui dit finalement, voilà, il y a un risque d'apatridie. Cela dit, ils ne sont pas apatrides puisque normalement, ils sont, britanniques hein, par une loi d'immigration passée par le Parlement. En 1971, le seul problème, hein, c'est que le secrétariat d'État à l'intérieur de l'époque ne jugea pas nécessaire de fournir la documentation prouvant une citoyenneté britannique, pas plus qu'il ne tint de registre de ceux qui s'étaient effectivement établis en métropole, donc soit au Royaume-Uni. Et en 2010, les tickets de débarquement appartenant aux immigrants Windrush, voilà, qui devaient avoir un ticket, j'imagine, quand ils arrivaient au port, furent intégralement détruits par les autorités, donc alors services de santé, allocation, logement, hein. La génération Windrush doit faire face à de nombreuses difficultés pour prouver que leur situation est bien légale, mais voilà, ils ne sont pas apatrides, a priori, ils sont britanniques. On continue d'en parler avec vous. Hakim, bonjour.
Bonjour ma chère Stéphanie.
Bonjour mon frère Hakim.
Oh là là, ce genre de débat, mais désolé, je ne cesserai d'ouvrir ma bouche et crier. 30 minutes.
Alors, Hakim, criez pas trop fort, comme ça on va pouvoir tous vous entendre calmement. Et voilà. Si vous pouviez couper votre kit-manip ou votre haut-parleur, on vous entendrait encore mieux.
Ben là, c'est bon.
Ça ira, on fera avec.
Alors, comme je l'ai dit à votre confrère, que là nous voyons la bêtise et que l'égoïsme des hommes qui sont au pouvoir. À cause de leur égoïsme, ils sont capables de livrer leurs frères rien que pour garder leur poste. Vous savez,
c'est-à-dire, Hakim, j'ai pas compris, qui a livré qui à qui?
Mais lorsque vous arrivez à renier vos semblables et que ces gens-là qui vous ont tendu la main, qui vous ont rendu service pendant des décennies, et aujourd'hui, vous votez une loi pour dire que non, ces gens ne sont pas des Anglais. Vous voyez, à un niveau où on peut dire que l'homme...
Hakim, alors je vais juste faire une précision pour qu'on comprenne bien. Il n'y a pas de loi qui a été votée pour cibler la génération Windrush. Au contraire, en fait, c'est plutôt des lois d'immigration migratoire qui ont été prises en 2010 pour compliquer la vie aux immigrés. Et malheureusement, cette génération Windrush s'est retrouvée en étau, s'est retrouvée au cœur de cette loi, en tout cas victime de cette loi. Voilà.
Oui, je voulais juste préciser. Oui, je comprends. C'est la même politique que la France a menée avec nos grands-parents qui ont combattu la guerre 45. Et que les Noirs, nos papas maliens sénégaliens, touchent moins que les combattants français. C'est la même politique. Comme je l'ai toujours dit, l'homme sur terre ne peut que s'en prendre à lui-même. N'attendez pas que celui qui est à l'Orient qui vient vous tendre la main. Mais nous sommes arrivés, comme on dit toujours dans la jungle, c'est la loi de la plus forte. C'est moi, que veux-tu que je dise? Comme je te dis, vous êtes là pour créer, pour informer, non pour créer les informations. Nos frères, si les dirigeants africains disent, bon, écoutez, venez, on va aussi libérer une partie dans nos pays africains dans laquelle les gens ne peuvent pas y habiter, venez, on va vous prendre. Qui pourra prendre comment
des
décisions.
Oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Hakim, et je vous remercie, je vais vous laisser conduire. Finalement, ce que vous dites, c'est une question de dignité, et voilà, comment une Premier ministre britannique peut se permettre de donner une fin de non-recevoir à certains chefs d'État et de gouvernement. Est-ce que voilà, ça montre aussi certains états des relations internationales. Merci beaucoup à Kim. On va écouter Boubacar dans quelques instants, puis Marcus et Dino. Avant cela, je voulais vous donner cette information. Alors, face au scandale, hein, donc on avait dit démission de la secrétaire d'État à l'intérieur, ouverture d'une enquête, promesse d'indemnisation. Et donc, pour remplacer Amber Rudd hein, au secrétariat d'État à l'intérieur, Theresa May a donc nommé à sa place Sajid Javid, un fils d'immigré pakistanais, hein, dans l'espoir de tirer un trait sur cette affaire qui ébranle un peu plus son gouvernement. Boubacar, bonjour.
Bonjour, c'est M. Doumbia Boubacar. Vraiment, ce débat-là, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que le moment que nous, les Africains, on a, depuis la colonisation, ça a été un choix pour nous, les Africains noirs. Parce qu'on a choisi, on a accepté qu'on nous colonise, qu'on nous manipule, qu'on nous traite.
Vous n'allez pas me faire du Kanye West, Boubacar, quand même.
Ouais, non, mais ça me fait vraiment mal au cœur, vraiment que le moment qu'ils avaient besoin de nous, les Africains noirs, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Maintenant, on est devenu quelque chose vraiment qu'ils n'ont plus envie de nous voir. Comment des personnes qui sont venues depuis avant l'indépendance même de, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, pour aider l'Angleterre à construire leur pays, à le faire développer, et maintenant, c'est les mêmes personnes qui ne savent même pas où aller, ils ne savent pas où sont, même pas où, d'où ils viennent, ils ne connaissent même pas leur d'origine. Et vous le dites à ces personnes vraiment de qui ne sont plus considérées comme les Anglais. Vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Et les CFDT africains sont là, nos politiciens, nos dirigeants intellectuels. Comme c'est père à son nom, je suis fier de M. Sekanda Diop qui avait dit que l'Afrique est des personnes de l'humanité. Même tout récemment, les Anglais même ils ont su que vraiment que leur d'origine, c'est un Africain. Un Africain noir qui a des yeux verts. Donc pourquoi maintenant, on est devenu maintenant un lourd fardeau qui ne peut plus nous supporter. Et nous, les Africains, pourquoi on est ici, on n'arrive même pas à réagir, on ne doit même pas donner le temps aux Anglais de s'exprimer. Dès qu'on a cette information, on devrait se lever tout de suite d'un coup, nos intellectuels, nos savants, nos psychologues, nos sociologues, de se lever, de dire, les Anglais, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est pas normal à faire à nous, les Africains noirs. On est des êtres humains, on est tous des êtres humains, nous ne sommes pas un objet de nous manipuler et qui vous n'avez pas besoin de nous, vous nous mettez à la poubelle. C'est pas comme ça, la vie. Donc ça me fait vraiment mal au cœur que nous, les Africains, qu'on s'assoive, qu'on regarde des choses qu'on nous fait. Il faut que les Blancs viennent il faut que d'autres personnes qui viennent pour nous aider, pour défendre nos causes, nos droits. Et nous-mêmes, on n'arrive même pas à se lever nous-mêmes pour défendre nos droits. On ne fait que parler, mais en réaction, on ne réagit pas. C'est ça qui me fait mal au cœur. Et moi, je demande à nos frères africains, aux panafricains, de se lever. Ce problème-là, on ne doit pas donner cette occasion, on ne doit pas leur donner d'occasion d'agir, d'aller plus loin. On doit mettre fin à cette polémique-là. Parce que tout récemment, par exemple, les Barcelonais voulaient prendre leur indépendance, ils n'ont pas voulu. Les Écossais voulaient prendre leur indépendance, ils n'ont pas voulu. Mais maintenant, pourquoi ils veulent que maintenant que ces Africains qui sont là depuis la Deuxième Guerre mondiale, où ils ne veulent plus voir ces Africains-là. C'est pourquoi nous, les Africains, on laisse ces genre de situation sans rien dire, sans rien réagir. C'est ça qui me fait mal au cœur. Et j'invite tous mes frères africains, tous mes sœurs africains, d'essayer de se lever et de trouver de quoi qu'on est capable. De ne pas laisser nous-mêmes que les Blancs viennent nous donner un coup de main pour essayer de nous aider à trouver...
Là, pour le coup, je vous rassure, Boubacar, et je vous remercie en même temps. Ce sont les gens même, les victimes même de la génération... Les personnes de la génération Windrush qui se sont mobilisées elles-mêmes pour revendiquer leurs droits et... faire valoir leurs droits, justement, ce que je voulais vous aussi préciser à Boubacar, effectivement, voilà, ce ne sont pas des gens originaires de l'Afrique, mais de la Caraïbe, et en même temps, ils sont bien sûr originaires du continent africain. Merci Boubacar, on a bien entendu votre rage, si j'ose dire, en tout cas, votre colère face à l'aberration de la situation, il faut le dire, c'est pour ça qu'on en parle aussi, et d'en parler ça permet peut-être de faire changer les choses et que cela ne recommence plus. Dino, bonjour.
Oui.
Allô, bonjour. Dino, oui.
Oui, bonjour madame Atman.
Bonjour monsieur Dino.
Oui, bonjour. Justement, je donne un peu mon point de vue sur ces sujets, j'ai pas beaucoup de temps à garder l'antenne. Par contre, moi, nous, on a trop de tendance à condamner les Occidents. Ouais, ce sont des salauds. Ouais, ceci, cela. Regardez, ceci, ouais, chez eux. En fait, moi, si je comprends bien, regardez, en fait, leur contrat, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient signés au début, avant de les patrouiller dans leur pays pour faire la guerre ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qui était signé comme contrat? Parce que je comprends que l'Occident, en fait, ils sont des fois, ils ont, surtout quelque chose quand ça les concerne, ils ont suivant, en fait, ils respectent la constitution plus que nous les Africains. Nous, on ne respecte rien du tout, ils respectent. On a vu des mecs, ils ont violé des petites depuis 50 ans, ils s'est fait arrêter, même si les gars, là, sont 72 ans, ils sont en prison quand même. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. On a vu l'histoire de l'Open qu'elle a débordé, si j'ai les pieds noirs en France, t'as vu comment ça fait les histoires. Ouais, c'est pas normal, non. C'est tout à fait logique parce qu'il faut regarder qu'est-ce qui était signé au début. Vous venez chez nous pour faire quoi?
Pas pour les pieds noirs, il n'y a rien qui a été signé. Là, pour le coup, je ne pense pas qu'il y ait des choses de signer. En fait, c'est des gens. Alors, on appelle ça Windrush du nom du premier bateau qui a embarqué 400 ressortissants de la Caraïbe, d'ailleurs. On est du côté des Caraïbes plutôt. On n'est pas du côté du continent africain, même si le lien est évident. Ce bateau, voilà, a embarqué 400 personnes venues travailler. Et ensuite, voilà, je suis pas sûre qu'il y ait un contrat de base comme les histoires de Boumidom en France.
Ah ben, ouais, mais justement, qu'est-ce qui était convenu aussi entre eux aussi, qu'est-ce qui était convenu? Parce que même s'il n'y a pas de contrat, mais qu'est-ce qui était convenu?
Ah, vous savez, jusque dans les années 70, on circulait plutôt librement d'ailleurs. Hein. Même ici en France, on n'avait pas besoin de carte de séjour, tout ça.
Ah, bon. Là, par contre, côté-là, je ne sais pas c'est à qui la faute. Mais personnellement, je suis sûr et certain qu'il y a quand même, voilà, il y a un petit, comme on dit, un arrangement. Voilà, donc ça peut
En tout cas, une enquête a été ouverte, hein, Dino, une enquête interne hein, par le gouvernement.
On aimerait mieux savoir la vérité, oui, justement, hein, parce que ça paraît idiot quand même. Mais, comment il s'appelle, pays comme la Britannique, qui prend des décisions comme ça, du jour au lendemain. Ils sont pas de voilà, vous savez que ça c'est une histoire qui ça touche international. Tout le monde va en parler, tout le monde va intervenir, c'est pas normal, ça va parler partout à l'Europe, à Asie, tout partout.
Ah bah là, oui.
Voilà, personnellement, moi je pense que quand même que voilà, à mon avis, ils ont leur raison de faire ça.
Parce que, faut enquêter. Mais non, je vous tiendrai au courant, mon cher Dino, des résultats de l'enquête, bien sûr. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre écoute et de votre participation. Cette émission sera rediffusée ce soir à 19h20 environ. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour la libre antenne du journal des auditeurs. Nous pourrons revenir sur ce sujet, nous pourrons parler du Togo, on va parler même du Togo, c'est une annonce, n'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail, jda@africa1.com. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.